cela sur vos murs, dans vos vies, dans vos urnes, dans vos assiettes? Ah, il va pas tomber du ciel, hein, le changement espéré. Cela avait commencé avant le virus, tenez. Le gouvernement avait engagé des réformes pour simplifier, alors comprenez, détricoter gentiment le droit de l'environnement, pour l'implantation de sites industriels. On redémarre l'économie, le pied sur l'accélérateur hybride, et on s'assied gentiment sur les zones naturelles. Traduction, les travaux de construction industrielle peuvent dans certains endroits commencer en anticipant sur la délivrance de l'autorisation environnementale. Alors, illustration dans actuenvironnement.com, dans l'estuaire de la Loire au Carnet. Là, vous avez un pan d'estuaire qui abrite 116 espèces protégées et on va déménager un peu ça. Ça se ferait au nom de l'implantation d'éco-technologie. Alors oui, je sais, les emplois, le chômage, la croissance, rien n'est simple. Roule le monde après, roule. Ballotté que nous sommes tous entre nos vraies valeurs et nos contradictions qui peuvent se réveiller à chaque heure. À Marseille, tenez, le premier jardin ouvrier a été créé en 1905. 4 hectares de potager cultivés par 150 familles, alors réserve de nature en cœur de ville, menacée aujourd'hui d'éventration pour faire passer 42 000 voitures par jour. Roule le monde d'après, roule. La Convention citoyenne proposera-t-elle de modifier la Constitution, de modifier la politique commerciale, de bousculer la prochaine PAC? L'été se prépare. Il sortira demain du calendrier. Alors agir, oui, toujours, et se tourner vers le beau, vers les gens qui font, qui agissent, comme cette semaine, cette rediffusion Made in Massif des Vosges, réalisée par Jérôme Boulet. Et enfin l'émission, après l'Alsace, il y aura une poignée de Giono. Bonjour à tous, c'est Aude Mon Amour, c'est parti.
Je crois que ce qui me motive, c'est les défis, c'est l'aventure. Des fois, des jeunes, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on va foutre dans la ruralité ? Ben, on a tout en ville, il n'y a rien, il n'y a pas de culture, rien. » Mais le dernier terrain véritablement d'aventure, c'est la ruralité. Il y a un champ, des possibilités, des défis énormes à relever. Je veux dire, si un jeune n'a pas envie de relever des défis, il ne faut pas qu'il soit jeune. Vous savez, j'étais le charlot quand on parlait de développement durable il y a 15 ans. C'était l'écolo de service à côté de ses pompes. C'est une mode, ça lui passera. Dans 5 ans, il aura compris, etc. Et aujourd'hui, je vois des gens qui étaient extrêmement sceptiques qui finissent par voir ce qui s'est passé. Et donc vraiment, le message, c'est dire, les jeunes, allez-y. Allez-y, réinvestissez la ruralité. Il y a mille et une choses passionnantes à faire dans le développement durable, à lutter contre le changement climatique. Passez à l'action.
Aujourd'hui, rencontre avec un ancien élu opiniâtre, Jean Vaugelle. 4 mandats de maire au compteur, là il ne s'est pas représenté. Nous sommes à l'entrée de la vallée de la Bruche. Nous sommes entre grès et granit, sale, avec 2 A. C'est la route du sel depuis l'époque gauloise. Alors c'est une commune du Bas-Rhin qui est posée sur un col des Vosges, entre la Lorraine et l'Alsace. C'est le passage entre Saint-Dié et Strasbourg. Alors village pauvre, hein, parce que son budget municipal, ça doit correspondre au budget de fleurissement et d'espace vert d'une commune voisine de 30 000 habitants. Jean Vaugelle a été maire et il est producteur de petits fruits, de baies de qualité qu'il transforme. Mais transformer justement, sans dénaturer, c'est son credo. Bâtir avec la population un rempart au renoncement qui est assez fréquent quand même en zone rurale. Alors Salles, avec ses 850 habitants, allez vivre, attirer de nouveaux habitants, garder l'école. Fabriquer du bien-être ensemble, c'est la boussole de cet homme. Nous sommes au-dessus du village, joli promontoire qui permet de porter le regard sur l'intégralité de la ligne bleue des vallées vosgiennes et alsaciennes.
Ça va être de l'air des Vosges aujourd'hui. Alors là, je vois donc un petit panneau en bois avec poire, pomme et cerise. Oula ! Ah oui, oui, et l'homme est pas très très loin des arbres fruitiers. Bonjour Jean Vaugelle.
Bonjour Denis.
Alors, je vous rejoins là parce que vous aimez beaucoup faire ce sentier, qui est un sentier en fait d'observation que vous avez créé. C'est un peu le sentier des fruitiers, c'est ça?
Tout à fait. Si vous voulez, ça, une situation exceptionnelle, c'est que c'est l'unique agglomération qui se situe au sommet d'un col, d'où un point de vue exceptionnel.
Et là, on est quand même sur une terre qui est assez pauvre. Hein. C'est une terre de seigle, de pommes de terre à l'origine. Et donc, une des richesses qui est arrivée d'ailleurs, allez, on va dire encore relativement récemment, mais ça a toujours été la forêt, quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'on a un potentiel agricole extrêmement réduit, des sols très pauvres, ben des températures, on est en montagne plutôt fraîche. Et le seul point positif, c'était l'eau. Et donc on sait que les résineux ont besoin d'énormément d'eau et ils ont trouvé ici ce dont ils avaient besoin.
Vous avez été en tête de liste, si j'ose dire, au moment de la tempête de 99, donc il y a plus d'une vingtaine d'années. Ça a été un couloir à vent incroyable. Et en même temps, ça a réouvert aussi le paysage. Et je dirais que une de vos fonctions de maire, c'était justement une réappropriation des paysages. Ça, racontez-nous, parce que c'est très intéressant.
Vous savez, le soleil, c'est quand même un élément important pour la qualité de vie, tout le monde le sait. Et ici, il y a eu un phénomène qui est assez rare, qui est même unique en France, mais qui touche tout le massif vosgien, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, on arboisait les trois quarts des terrains agricoles. Et donc, bien entendu, on arboisait jusque derrière les maisons. Et un jour, le soleil ne se levait plus à 5h du matin, mais il se levait à 11h. Et donc, on s'est rendu compte que les villages qui étaient complètement encerclés de forêt finissaient par disparaître. Donc, quand on a été élu en 1995, on a décidé de mettre en place des projets paysagers pour couper tous ces arbres qui ont été plantés sur terrain agricole autour du bourg. On a été, sans cela, effectivement, bien aidé par la tempête de 99. Et donc, plus de 50 à 60 hectares ont ainsi été redonnés à l'agriculture.
Et alors ça, en fait, ça contrariait les mentalités, parce que pour beaucoup de gens, forêt égale richesse, quoi.
Tout à fait. On se dit, mais pourquoi les ouvriers paysans ont planté des arbres sur des terres agricoles? Et en fait, après la Seconde Guerre mondiale, celui qui coupait un hectare de beaux sapins construisait une belle maison, achetait un bel appartement à Strasbourg. Et croyant bien faire, le petit ouvrier paysan qui avait 3 hectares, 50 parcelles, il a tout reboisé en se disant, au moins mes 3 enfants auront leur appartement ou leur maison.
Alors comment on transforme les défauts, je dirais, en atout?
Chez nous, on a fait un gros travail de consultation avec la population en disant, notre atout en montagne, c'est vraiment la nature, c'est l'environnement, c'est la qualité de vie. Comment on peut essayer de monter des projets autour de tout cela?
Alors, parmi les projets, c'était quoi?
Alors, on a initié donc des projets qui ont touché, comme je viens de le dire, la réouverture des paysages, le développement de l'agriculture, le cadre de vie. Et puis, il fallait rendre tout ça cohérent. Donc, on a embrayé sur des projets d'économie d'énergie, des projets d'énergie renouvelable. Et quand vous avez ce genre de projet sur une commune, vous attirez des gens qui, eux, viennent avec d'autres idées. Et ici, la grande spécificité à Salles et dans un certain nombre de communes de montagne, c'est que l'étranger, c'est pas l'ennemi, c'est une richesse. Et donc ici, quand nous avons des nouveaux habitants ou des résidences secondaires qui arrivent, c'est une richesse, on va les voir, on leur dit quelles sont vos compétences, quelles sont vos idées, venez rejoindre le monde associatif, venez intégrer le conseil municipal, participer vraiment à la vie et au développement du village.
Alors, comment on fait lorsque on a ce combat, on va dire, face à une montée de logique financière, d'injustice des répartitions des finances publiques? Vous résistez bien, quoi.
Alors, on essaye d'être toujours malin. Je veux dire, quand vous avez un problème, soit vous réussissez à le solutionner, soit vous le contournez. Mais il y a des fois, ça devient des rapports de force et on a l'habitude de dire ici que comme on est un des villages les plus éloignés donc du chef-lieu de Strasbourg, faut avoir l'habitude de crier très très fort si on a envie de se faire entendre.
Et alors, lorsque vous avez en France une solution sur un territoire, paf, après donc on la généralise sur l'ensemble du pays. Les Allemands, donc qui sont vos voisins, les Autrichiens, les Suisses, ils font le contraire, c'est-à-dire qu'ils adaptent les lois aux réalités du terrain et ça change tout.
Ça, c'était une véritable catastrophe française. Aujourd'hui, on dit qu'il y a une urgence climatique, mais nos outils institutionnels, notre administration, n'est préparée en tout, sauf à faire face à une situation d'urgence. Tous les Français comprennent qu'un problème en Haute-Savoie ne sera jamais le même problème dans la Creuse et que dans la Creuse, ça ne sera jamais le même problème en Bretagne. Ce qui fait la richesse de la France, c'est ses territoires. Et nous, au lieu d'adapter nos lois à chaque territoire, on demande au territoire de s'adapter à la loi, ce qui est vraiment à l'origine, je pense, d'énormément de nos problèmes économiques et sociaux. Moi, ce qui me sidère, c'est que chaque fois que je vais à une réunion de maires, quand un ministre dit « vous avez des savoir-faire, vous connaissez des choses, il faut qu'on avance ensemble
oui, », c'est là comme ça.
C'est là qu'il y a le plus d'applaudissements, mais il n'y a jamais rien de concret après.
Alors là, on est à la lisière de la forêt qui va grimper jusqu'à les 800-900 mètres à peu près. Et qu'est-ce qu'elle véhicule quand même cette forêt dans l'imaginaire des gens ici ?
Alors si vous voulez, et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout compris à Paris, la notion de bien commun. Et donc à Salles, nous avons deux biens communs essentiels qui sont la forêt et l'eau. Et si vous voulez, il y a la richesse du bois, bien entendu, même si le prix s'est effondré ces dernières années. Mais vous avez les fruits sauvages, vous avez les champignons, vous avez cet espace de liberté. C'est pas une forêt privée clôturée dont on vous interdit l'accès. Ouais. Ici, il existe des chemins, les chemins sont balisés. Et c'est un bien commun qu'on se transmet de génération en génération, de conseiller municipal à conseiller municipal. Et depuis des décennies, dans chaque conseiller municipal, vous en avez une personne qui gère la forêt et rend ce service à la forêt parce qu'on a une gestion totalement durable avec 95% de régénération. Et ils savent que le travail qu'ils sont en train de faire là, ben c'est dans 3, 4, 5 générations des arbres qui seront coupés dans 100 ans. Voilà.
Quand vous parlez d'économie circulaire, qu'est-ce que l'on recycle ici ?
Alors, les économies circulaires, si vous voulez, par exemple, on a une chaufferie urbaine au bois, automatiquement, ben, vous produisez des cendres, donc les cendres, ben, on les valorise au niveau de l'agriculture. Nous avons des agriculteurs qui produisent du fumier localement, donc voilà, ben, les agriculteurs qui n'en possèdent pas, ben, s'approvisionnent chez ceux qui en produisent. On a quand même beaucoup d'artisans de bouche qui font d'excellents produits et on essaye au maximum, bien entendu, faire en sorte que la demande locale soit au rendez-vous.
Que vous ont enseigné ces 10-11 années que vous avez passées donc au Cameroun avec des producteurs de café, de cacao, de sucre ? Est-ce que toute cette expérience-là, elle vous sert ici ?
Absolument. Je l'ai toujours dit que je n'aurais jamais mener à bien tous les projets que j'ai menés si j'avais pas passé ma dizaine d'années en Afrique aux côtés des paysans africains. Tout d'abord, c'est la notion de gens dans la difficulté. Et c'est là que, quand on est vraiment en difficulté, qu'on trouve les ressources pour vraiment remonter la pente et aller plus loin. Et quelque chose d'important, c'est le mot dialogue. C'est-à-dire, quel que soit le problème, il faut savoir dialoguer. J'aurais pu prendre en tant que maire des décisions expéditives, rapides, en disant c'est comme ça, on y va. Et sur certains problèmes, on a pris des années pour avancer. L'exemple le plus réussi, c'est le plan local d'urbanisme. Ouais. Où quand il y a une dizaine d'années, on a commencé à réfléchir, c'était quasiment la guerre au sens propre, entre bien entendu les agriculteurs et d'autres personnes. Et on a pris le temps de mettre tout le monde autour de la table, tout le monde a pu s'exprimer. Il y a eu vraiment une véritable compréhension des problèmes des uns et des autres qui s'est faite. Et on a abouti à un plan local d'urbanisme qui permettait de reprendre des terres constructibles, de les remettre en agricole.
Et c'est exceptionnel.
Ce qui est exceptionnel, mais surtout sans que ça coûte l'élection du maire.
Ah, que c'est bien de marcher sur les foins là, qui viennent d'être faits. Oh là là, cette odeur. Toujours en train de marcher sur ces sentiers dans et autour de Salles avec Jean Vaugel.
Oui, tu fais ton boulot de chien. T'inquiète pas.
Alors, il y a l'entretien de ces sentiers communaux et là, vous laissez une bande de biodiversité, des plantes, des herbes, des petits épineux pour que les papillons, les abeilles, tout le monde se régale, quoi.
Oui, alors, ici, le grand changement, c'est que la biodiversité a explosé en 100 ans. Quand on regarde les cartes postales qui existaient dans les années 1900, tout était pelé, il n'y avait que des champs de pommes de terre, des prés, une céréale pauvre et le village. Il n'y avait aucun arbre fruitier. Et là, on peut dire effectivement que la biodiversité a été multipliée par 1000 ou par 10 000 en ces 50 dernières années.
C'est une manière de rappeler aussi que quand on lui fiche la paix, la biodiversité, à la nature, elle peut reprendre ses droits, quoi.
Alors, le bémol, c'est que c'est quand même l'homme qui a permis. Je veux dire, si on avait laissé faire la nature, vous auriez ici des bouleaux, des aules. Ouais. Et là, vous voyez, il y a de tout, quoi. Il y a des prés de fauche, il y a des pâtures, il y a des alignements de vieilles variétés fruitières.
Diriger,
vous avez des jardins, des friches, ouais. Voilà. Et des zones humides, hein, n'oublions pas, on a laissé autour de ça pas mal d'hectares en zone humide, justement. Et c'est des zones où on ne pénètre pas.
Hop, c'est par là.
Alors, il faut peut-être quand même dire à quelque part qu'il y a eu quasiment 1 000 000 d'arbres fruitiers aux tiges plantés ces dernières années sur les communes de Salles et environnantes. Et que c'est quand même, ça constitue après un réservoir à biodiversité énorme. Hein.
Allez, une petite pause musicale. On retourne après dans les Vosges. Je ne vais pas faire d'enchaînement parce que, à mon avis, il y en a pas.
Johnny Jane, tu te souviens du film de Gainsbourg? Je t'aime. Je t'aime, moi non plus. Un joli t'aime. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Hey, Johnny Jane, les décharges publiques sont les Atlantides. Que survolent les mouches quand t'arrives. Hey Johnny Jane, tous les camions à peine viennent t'y déverser bien des peines infanticides. Hey Johnny Jane, tu balades tes cheveux courts, ton teint livide, à la recherche de ton amour suicide. Hey Johnny Jane, du souvenir veux-tu trancher la carotide à coups de pied dans les conserves vides. Oh Johnny Jane, le beau camion à peine te transporter de bonheur en bonheur sous les cieux limpides. Hey Johnny Jane, ne fais pas l'enfant, ne sois pas si stupide. Regarde les choses en face, sois lucide. Hey, Johnny Jane, efface tout ça, recommence, liquide de ta mémoire ces brefs instants torrides. Hey, Johnny Jane, un autre camion à peine viendra te prendre pour t'emmener vers d'autres Florides. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux candides dans les no man's land et les lieux sordides. Hey, Johnny Jane, écrasant d'un poing rageur ton œil humide, le temps ronge l'amour comme l'acide.
C'était la balade de Johnny Jane, ça vous l'avez reconnu, Jane Birkin. Merci à Thierry Dupin d'avoir choisi ce disque. Retour à Salles, dans le Bas-Rhin. On est entre 500 et 800 mètres d'altitude. Alors vous avez le bureau d'études d'énergie renouvelable de Jean-Louis Simonin. Vous avez la laiterie du Climont, très en pointe sur les probiotiques, en résonance avec les fruits de Jean Vaugel qui sont pleins d'antioxydants. On se promène près, au-dessus et dans le village de Salles. On est quitté la forêt, on est toujours donc dans Salles, et là, Jean, on arrive devant une des fontaines, je dis une des parce que vous en avez donc une vingtaine, avec quand même ces très beaux bacs en grès, 1900.
Ces fontaines-là, c'est la véritable révolution dans nos villages au début du XXe siècle. Ouais. Une révolution parce que l'eau potable, c'est quelque chose de précieux. L'eau, s'il faut la chercher loin en forêt ou dans des ruisseaux, ben, ça prend énormément de temps et c'est pénible. Et surtout, on oublie quelque chose, c'est que la principale peur, il y a 150 ans, 100 ans dans nos villages, c'était les feux. Les toits étaient de chaume, beaucoup de bois dans les maisons, du foin dans les greniers. Ben, le feu dans la cheminée, un vent du nord en hiver, une braise et ça partait. Et c'était pas une maison, c'était tout un quartier qui brûlait.
Donc c'était une pompe à incendie en quelque
sorte. Tout à fait. Ça servait, voilà, ça servait à ça. Et aujourd'hui, ben, toutes les fontaines sont encore branchées sur la conduite du village. C'est le bien commun. Et notre fierté, c'est de dire, ben, à celui qui vient se promener à Salles, qui vient comme touriste, de dire voilà, toutes nos fontaines desservent de l'eau potable, vous pouvez la boire, vous en verrez beaucoup avec les jerricanes parce qu'on a d'une eau d'une extrême pureté.
C'est-à-dire qu'elle est très déminéralisée. Hein.
Extrêmement déminéralisée. Et donc, notamment bah, pour les gens qui ont des problèmes de calculs rénaux, bah, aujourd'hui on a plutôt une alimentation sur-minéralisée et donc c'est une eau qui peut faire que du bien.
Alors, pas de produits chimiques dedans, enfin, vous n'avez pas mis de chlore, quoi, surtout.
Non, alors la grosse innovation, c'est qu'on a un petit réseau. La désinfection se fait par ultraviolet. Alors, ultraviolet, c'est un mot compliqué. Nos grands-parents, arrière-grands-parents, séchaient le linge au soleil. Bah, faut savoir qu'ils...
Ça se fait encore, hein?
Ça se fait encore, tout à fait. Il y a des communes où c'est un peu mal vu, hein.
Ouais, non,
voilà, mais ça se fait. Et en fait, il y a dans le soleil une gamme de rayons ultraviolets qui est bactéricide.
Ouais, okay.
Et donc, qui détruit toutes les bactéries qu'il pouvait avoir sur le linge. On a mis cette gamme de rayons ultraviolets dans une lampe et l'eau passe autour de la lampe et automatiquement, c'est désinfecté. Et l'eau n'a absolument aucun goût de chlore.
Alors vous tenez vraiment beaucoup à cette notion de bien commun, donc la forêt en bien commun, l'eau en bien commun.
Voilà, donc l'eau c'est fondamental, ici de génération en génération on se transmet le savoir de l'eau, les ouvriers savent où sont les conduites, savent réparer, ce qui nous permet d'avoir un rapport qualité-prix de l'eau extraordinaire, et malheureusement le gouvernement n'a pas compris, puisqu'en 2015, et je suis désolé, le président Macron n'a pas voulu revenir en arrière, sans l'avis des communes, on a estimé qu'il fallait transférer la gestion de l'eau des communes aux communautés de communes. Et
ça va augmenter.
Voilà, donc la seule certitude, c'est que le prix de l'eau va doubler. Donc si la taxe d'habitation est supprimée, ben, les gens le paieront sur la facture d'eau, ce qui est pour eux sera une opération blanche. Et donc mon dernier combat, c'est vraiment sur l'eau.
On poursuit la balade?
Oui, allez, on y va.
Ah bah vous avez des cyclistes aussi, bien sûr. Voilà, hop, deux femmes sont parties à vélo vers direction du col de Hans qui est juste derrière.
Bon, il y a de quoi casser la croûte, madame Closet. Bonjour. Non, parce qu'on s'est dit, ça y est, on est quitte d'aller à la maison.
Ouais.
Salut Monique.
Ah non, c'est le partage.
Salut Monique.
Il n'y avait rien pour nous.
Voilà.
C'était entre
ça
les
y est.
Deux.
Trop voilà, c'est ça.
Trop tard, il est arrivé trop tard pour déjeuner. Bon, ouais.
Allez, bonne journée.
Alors là, on va se retrouver devant une bâtisse, juste à côté donc de la boucherie. Un petit code QRC. Alors vous en avez mis pour découvrir la biodiversité, le patrimoine, et aussi l'énergie des maisons.
Voilà, tout à fait. Donc on a une dizaine de réalisations de maisons qui ont fait l'objet de rénovations thermiques. Et donc, sur ce QR code, vous avez toutes les informations. Vous pouvez avoir, là je suis par exemple devant la boucherie Simona, donc vous pouvez avoir en lisant, alors vous scannez le QR code, et là vous pouvez avoir des photos de la boucherie il y a 100 ans aujourd'hui, du bâtiment, et après vous avez les photos des chantiers en cours. Donc là, on voit que la maison a fait l'objet d'une installation d'un panneau solaire thermique. Et nous sommes quasiment, je pense, enfin jusqu'à récemment, l'unique boucherie d'Alsace où l'eau de préchauffage des saucisses est faite par le soleil. Et donc, non seulement il y a eu ces panneaux de solaire thermique, mais puisqu'il y a énormément d'énergie qui est partie par le toit, hein, on sait, 40% de l'énergie part par le toit. Là, ça fait l'objet d'une isolation par laine de bois d'une quantité importante.
Donc on a toutes les indications, on a le avant et le après, donc avec les gains.
On a toutes les informations techniques de ce qui a été réalisé. Il y avait ce qui avait été dépensé avant, le coût de l'opération et les économies générées.
Vous mettez en valeur aussi bien les bâtiments privés que les bâtiments publics.
Tout à fait. Ben, il faut que la commune montre l'exemple. Donc on l'a fait, nous, pour un certain nombre de bâtiments communaux. Et ça peut avoir des effets inattendus. Par exemple, l'école avait un plancher de grenier énorme. qu'on a isolé par la laine de bois, et malheureusement on a eu le feu à l'école. Et la laine de bois en quantité importante a empêché les flammes d'arriver au contact de l'oxygène dans le grenier, et ça a empêché l'école de brûler. Et nous avons eu pour 80 000 euros de dégâts, autrement il y en aurait eu pour plusieurs millions d'euros.
Jean Vaugelle, là on voit quand même passer pas mal de camions. Est-ce que les camions internationaux ont le droit de passer ici ?
Non, pas du tout, mais il y en a de plus en plus qui passent parce que les amendes sont ridicules.
Ouais, 80 euros. C'est
ça. 80 euros, et puis ils ont une chance sur 1000 ou sur 10 000 de se faire prendre, donc le risque est nul. Ouais, et donc ça a un coût énorme pour la société parce que nos routes ne sont pas faites pour autant de camions et des charges si lourdes. Donc le coût indirect est énorme. Et voilà, moi je me bats. Quand on pense développement durable, on n'est pas des cinglés au niveau économie. On pense quand même de calculer les effets induits de ce que l'on fait. Et donc bien entendu, moi ça me révolte.
Jean, je vais m'en retourner vers une autre région, je ne sais pas encore laquelle, donc on va quitter donc ces Vosges, avec un petit mot de fin.
Ici, ce que j'ai voulu montrer, et c'est aussi pourquoi j'ai écrit le livre, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec pas grand-chose. Souvent, les jeunes et moins jeunes sont découragés en disant « Ah, mais j'ai pas les moyens financiers, ah, mais j'ai pas fait des études, ah, mais j'ai pas fait ceci ». Et ici, on voit qu'avec trois fois rien, on peut aller très loin. Et c'est vraiment ce que je voudrais dire à tout le monde, à tous les Français. Il y en a pas qui sont programmés pour réussir parce qu'ils ont ceci, cela. Tout le monde peut faire vraiment de belles choses pour lui, pour son village, pour son pays, pour l'humanité, pour ses voisins. Et qu'il faut juste le vouloir pour aller loin.
Ouais, ce que l'on entend, c'est surtout ne pas forcément attendre systématiquement des autres.
Oui, et puis si vous voulez, alors c'est sûr que si on a fait des études, il vaut mieux en faire que pas en faire. Mais vraiment, moi j'ai vu des tas de gens ici qui ont eu des réussites remarquables. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que ça c'est une caractéristique typiquement du massif vosgien. Nos parents, grands-parents n'ont pas des gens qui ont fait forcément beaucoup d'études, mais c'est des gens qui ont toujours eu envie d'apprendre et de progresser. C'est ça l'essentiel dans la vie. C'est apprendre, progresser, toujours avancer, être au service des gens et pas à un moment donné se décourager ou ne plus rien faire.
Vous avez dit un truc important, être au service des gens. Ça va pas de soi, mais pour vous, c'est votre ADN.
Oui, parce que si vous voulez, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais vous faites un peu de sociologie, la béaba qu'on vous apprend, c'est dire qu'un homme ne peut être heureux que s'il a plus et surtout s'il est plus. C'est-à-dire s'il est considéré, s'il lui a le sentiment d'avoir permis à des gens d'être heureux et de progresser, et c'est ça l'essentiel.
On peut pas être heureux tout seul dans son coin. Voilà.
Tout à fait. Et je crois que c'est il y a eu des mouvements sociaux en France, mais ce qu'il faut vraiment retenir de tous ces mouvements, et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place à Salles à travers une maison de la bienveillance et des projets, il faut que les gens se reparlent et aient envie et fassent des choses ensemble.
Merci Jean Vaugelle, à bientôt.
Merci Denis, bon vent.
Eh bien, disons-le, le discours de cet homme nous fait du bien. À Salles, on plante des arbres, en tout cas, il pousse des idées. Jean Vaugelle a écrit un livre, L'appel de Salles, c'est préfacé par Axel Kahn, et c'est aux éditions de La Nuit Bleue.
Je vais demander de quitter les lieux.
Chut, CO2, mon amour.
Je fais de l'hyper-audition. Écoutez. Mettre mes pas dans la neige. Ben, j'entends chaque détail. Comme un monologue avec le vin.
Denis Chessou.
C'est incroyable la qualité de l'air ici. Hein.
Sur France Inter.
Et après les Vosges, allez hop, le sud de Jean Giono.
Je suis né en Provence par hasard. Parce que mon père et ma mère s'y sont rencontrés, s'y sont mariés. Autrement, ma mère était parisienne. D'un père provençal, évidemment, de Manosque. Et mon père était, pourrait-on dire, né en Provence, puisqu'il est né à Saint-Chamas, mais de père et de mère italienne.
Piémontais,
oui. Par conséquent, tu vois, il n'y a pas des origines, très, très provençales. Mais j'aime ce pays.
Quand la nature inspire les écrivains, c'est un livre aux éditions Plume de Carotte, signé Elisabeth Combre. C'est l'année Giono, direction Manosque. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Denis.
Jean Giono, hein, oui, sa vie et son œuvre tournent autour de la Provence, mais Giono, c'est avant tout un conteur. Hein, la Provence qu'il raconte, elle n'existe pas. Sa nature provençale, c'est une nature imaginée, elle dit un territoire de fiction, à la manière de cet écrivain américain, William Faulkner, dont on parlera. Dans ses premiers romans, effectivement, en 1929, c'est Colline qui le révèle. Et dans ce livre et les deux suivants, qui forment la trilogie de Pan, Giono dit la difficile relation entre les humains et la nature. Elle est tourmentée, la relation de Giono à la nature, dans un grand nombre de ses livres. C'est une relation empreinte de passion et de violence, de possession et de mort. La nature est magique. Hein. Giono en appelle au dieu Pan, le dieu grec des bergers et des bois, et le dieu cornu et velu. Il fait référence à Homère, à Virgile. Sa nature est puissante et elle punit ceux qui ne la respectent pas. Il associe la nature, la terre, à la mer, l'océan en colère, et aussi à la mère, à la femme. Il a une sorte de peur d'être dévoré, une peur d'être englouti. Et il va jusque dans des relations sombres. Et c'est la phrase du conteur qui emmène le lecteur au cœur de cette noirceur, et elle se doit d'être belle.
Alors c'est vrai que c'est un homme aussi, il faut le dire, que lorsqu'il nous dépeint sa Provence, c'est pas du tout celle de Pagnol. Hein. Ça peut être aussi une Provence alors, pleine de soleil, d'accord, mais c'est une Provence aussi qui peut être noire. Alors il y a quand même aussi, ce qui était important, ça a été aussi ce lieu du Contadour, puisque donc entre les deux guerres, donc cet homme-là, on sait qu'il était pacifiste, donc dans cette montagne de Lure, c'est là qu'il recevait, qu'il discutait avec les intellectuels.
Le pacifisme, ça vient de sa participation à la guerre de 14-18. Ouais. Hein. Il en a tiré un livre qui raconte les humains pris dans la guerre comme un troupeau mené, si ce n'est à l'abattoir, en tout cas à la mort. Et pendant l'entre-deux-guerres, effectivement, entre 1935 et 1939, il organise des rencontres dans la montagne de Lure. Il veut renouer avec ce lien apaisé avec la nature, il veut reformuler cette quête d'un âge d'or, énoncé par Virgile, toujours, qui inspire beaucoup Giono, du berger poète et puis du paysan qui trouve le bonheur en travaillant la terre. Pour Giono, l'homme qui plante est en lien avec les transformations vitales, la germination, la renaissance. Et il y a un livre qui a marqué les esprits depuis
L'homme qui plantait des arbres.
Voilà. Donc écrit en 1953. Alors, c'est un livre un peu en marge de l'œuvre de Giono, hein, mais dans ce livre, donc, qui est une commande, sur ces hommes formidables que j'ai rencontrés. Et Giono, au lieu de parler d'un homme réel, va inventer un berger qui redonne vie à un paysage désertique à force de patience et d'obstination. Il passe plus de 30 ans de sa vie à planter des glands qui donneront une forêt et qui elle-même va grandir et permettre au village de se développer autour.
Et puis Elisabeth, on peut dire en fait qu'il y a eu une rupture aussi chez Giono, c'est-à-dire qu'il y avait cette nature magique que l'on a découvert donc avec Colline, Roguin, Beaumugue et puis d'autres livres. Et puis après, donc, il a écrit vraiment des fictions. Alors il y avait toujours la nature, hein, c'est toujours extrêmement important, mais quand même, là c'était, il s'est davantage peut-être intéressé aux humains qu'aux paysages.
Il y a eu la rupture de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la prison, il y a eu ce texte sur Melville, hein, qui parle d'Herman Melville, mais qui dit aussi la vision de la littérature de Giono lui-même, et qui dit l'urgence de se renouveler. Il va s'attacher à la psychologie des personnages, il va s'intéresser à Machiavel, et donc il va parler de ces personnages, mais avec une nature qui a un rôle important.
Et de toute façon, chez Giono, bah en fait, la nature contient toute la vérité du monde. D'ailleurs, vous l'écrivez, les joies et les souffrances humaines, les secrets de la terre et des éléments, la mort et l'éternité. Voilà, donc si on retire la nature de Giono, on n'a plus le même bonhomme, hein, ce ne sera pas la même chose.
Voilà.
Grand merci à vous Elisabeth Combre, et puis donc je vous renvoie à cet ouvrage « Quand la nature inspire les écrivains », c'est aux éditions Plume de Carole. Au revoir Elisabeth.
Merci Denis, à bientôt.
Les podcasts sur franceinter.fr, cuicui, le Twitter, Denis Chessou, tout attaché. La dernière de la saison, ce sera demain à 13h20. Et là aussi, une action réussie de territoire, la Biovallée dans la Drôme. Camille Blanès, Jérôme Boulet, Denis Chessou, nous vous souhaitons un bon samedi.